Instant X.
You're a witch!
He's a witch too, you know.
You're a wizard, Harry.
Une fois n'est pas coutume, les premiers chrétiens, ne sachant pas trop comment faire pour rameuter du monde dans leurs églises et convertir les peuples à leur religion, ils se sont appuyés sur une tradition païenne pour en faire Noël. Et qu'est-ce appelé l'Orio Yule ? Et oui, l'ancêtre de notre joyeux Noël, c'est le païen slash sorcier slash nordique Yule, sabbat du solstice d'hiver. Si Noël domine aujourd'hui la période du solstice en Occident, il repose évidemment sur les nombreuses fêtes païennes européennes qui célébraient tout le passage à l'hiver et le retour de la lumière. Et ça se passe en général aux alentours du 21 décembre, on est en plein dedans. Partons à la rencontre de ce sabbat mineur, mais pas moins incontournable de la route de l'année. Promis, on mangera des chocolats après. Alors que la date du solstice d'hiver change chaque année d'un ou deux jours en fonction du mouvement des astres, Yule se fête toujours le 21 décembre, donc hier. C'est l'un des quatre sabbats célébrant le festival du soleil et du feu. C'est le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord et dans certains lieux, le soleil ne se lève pas du tout. Yule représente le premier jour officiel de l'hiver et jusqu'à Lita, les journées vont donc se rallonger, bannissant l'obscurité et apportant la lumière, symbole de chaleur et de vie sur Terre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, car il prend place au début de l'hiver, Yule est donc la célébration du soleil. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on y allume tant de bougies, de guirlandes clignotantes, qu'on fête les lumières, qu'on fait flamber nos plus belles bûches.
Ça signifie que c'est plutôt une fête des pays nordiques à l'origine ?
Tout à fait.
Ah oui, d'accord.
À cette occasion, on rappelle à nous la lumière, on la célèbre, on lui déclare notre hâte de la retrouver alors qu'elle s'est faite de plus en plus timide les mois précédents et que clairement ça commence à nous peser. On attend le retour de la chaleur avec impatience, le retour du soleil, de sa puissance après qu'il soit retourné au cœur de la terre pour que cette dernière s'éveille à nouveau au printemps et à l'été et qu'elle nous apporte des récoltes abondantes et la fin de la dépression saisonnière. Les origines de Yule sont pour la plupart spéculatives, mais il semble prendre son origine en fait dans les fêtes saturnales qui étaient célébrées par les Romains entre le 17 et le 25 décembre. Bien qu'aujourd'hui, on associe Yule à Noël et donc à la nativité du 25 décembre, il n'y a apparemment aucune preuve biblique ou historique que le Christ soit vraiment né ce jour-là. En revanche, on sait que les Romains célébraient Mithras à cette fête-là. Mithras est une divinité qui est associée au soleil invincible, le Sol Invictus. Et les Saturnales chez les Romains, c'était la grosse chouille. On mangeait à foison, on buvait de l'alcool préparé spécialement pour cette fête, ce qui n'est pas sans nous rappeler certains repas de Noël chez mamie, arrosé au dessert de l'agneau maison du grand-père qui, elle, était distillée illégalement au fond de la cave. Bon, les Saturnales étaient tout de même un niveau au-dessus car elles sont devenues au fil du temps un festival où régnait débauche et obscénité, ce qu'il n'y a pas chez mamie, en tout cas pas chez la mienne, je ne juge pas. En tout cas, il semble assez naturel que cette période...
Venant d'une fille qui pisse dans le guacamole...
S'il vous plaît.
Je trouve que vous manquez pas de culot.
Je parle de ma grand-mère, une sainte femme. Il semble donc assez naturel que cette période de l'année fût considérée comme une période sacrée ou en tout cas festive dans de nombreux folklores. En plus de l'allongement des jours, le solstice d'hiver était une époque de l'année où une grande partie du travail agricole était terminée, les récoltes étaient faites depuis longtemps, les provisions stockées et la bière était brassée. Le petit plus, c'est que l'on pouvait pour une fois manger de la viande fraîche, car les températures permettaient de la conserver sans la saler. C'est pourquoi Yule a fini par être synonyme de festin et de repos. Cependant, Yule dans la roue de l'année sorcière, c'est aussi une période symbolique de la mort. Cette mort nécessaire que l'on accueille sereinement en vue de la renaissance qui aura lieu au printemps. On remercie alors le dieu cornu et la déesse, chez les Wiccans, mais vous pouvez remercier qui vous voulez, de nous avoir permis de traverser la nuit la plus longue de l'année. Cette étape de passage de la vie à la mort est symbolisée par une bûche que l'on va décorer et faire flamber pendant toute la nuit du solstice, une tradition que l'on retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux pays nordiques. À travers cette flambée, on crée de l'espace, on se libère pour ainsi mieux se remplir peu à peu de lumière. Et de la lumière, je vais vous en proposer tout de suite avec un peu de musique, une musique de Noël d'ailleurs. Benoît, are you ready? C'est parti.
On a écouté The Ronettes, je crois.
Tout à fait, c'était The Ronettes avec le morceau Sleigh Ride.
Et vous nous parlez ce soir de Yule. Yule, qui n'est pas le nom d'une plateforme de VOD ou de série.
Pas du tout.
Série.
Ni dirait, un chanteur on dirait ça un peu de rap Yule. Ou quoi que ce soit.
Voilà.
Yule, c'est le sabbat du solstice d'hiver. Et c'est un sabbat qui, je trouve, a un double aspect, à la fois sombre et lumineux. C'est une fête où on va parler des fantômes, littéraux et symboliques, mais aussi on va partager énormément de joie, on va s'embrasser sous le gui et partager des repas avec celles et ceux qui nous sont chers. L'obscurité pourtant de Yule nous donne une opportunité de nous plonger dans notre ombre, la part de nous-mêmes que nous n'osons pas toujours partager avec les autres, souvent connotée négativement, mais que nous devons tout autant honorer et respecter. Et on retrouve vraiment ce double aspect de Yule dans les traditions de Noël modernes. On a le Père Noël et le Père Fouettard. Pour moi, ce ne sont rien d'autre que des avatars pimpés de Saint-Nicolas et de Krampus, tous deux venus des traditions de Yule en Europe du Nord. L'un apporte des cadeaux aux enfants sages, quand l'autre vient punir ceux qui se sont mal conduits. Chez les sorcières, on fait le boulot nous-mêmes, on se tient face au miroir et on essaye de se regarder en face avant d'entrer dans une phase de libération à la fin de l'hiver qui ouvrira le champ des possibles et pourra permettre la réalisation potentielle des choses que l'on a souhaitées. Et dans la pop culture récente, on trouve un bel exemple de la dualité de Yule et de ses mythes dans un épisode de Noël de la série The Chilling Adventures of Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina en VF qui est sortie en 2018 sur Netflix.
Bright solstice, ladies. Bright solstice, Sabrina. Time to light the Yule log.
Christmas is the best time for ghost stories.
Dans cet épisode qui se situe entre la première et la deuxième saison, Sabrina profite du sabbat de Yule, qui est un événement traditionnel très important pour la famille Spellman et les sorciers et sorcières de leur communauté, pour tenter d'entrer en contact avec sa défunte mère, qu'elle avait brièvement croisée dans les limbes à la fin de la première saison. Oui, pardon, je spoil de ouf, hein, je vous le dis tout de suite. Il est vrai que dans certains folklores européens, Yule est comme Samhain, une période où le voile entre les deux mondes est mince, ce qui permet d'accéder plus facilement à ce qui s'y trouve, qu'il s'agisse de l'esprit d'un défunt ou d'une divinité. Dans cet épisode, on trouve également la tradition de la bûche de Yule, même si son objectif dans la série est plutôt de tenir éloigné les mauvais esprits. Ici, par exemple, ces mauvais esprits, ce sont des Yule Lads, inspirés d'esprits farceurs venus du folklore islandais, qui étaient au nombre de 13 et qui descendaient de la montagne 13 jours avant Noël, apportant chacun un cadeau ou une punition aux enfants.
All right. Whoever or whatever you are, that's quite enough. Oh, that can't be good.
Alors, vous venez d'entendre un petit extrait de la série où effectivement une des tantes se retrouve confrontée à ces Yule Lads. Dans la tradition, ils sont considérés comme des esprits d'enfants défunts qui sont plutôt inoffensifs. Mais parfois, le mythe les a dépeints comme pouvant être meurtriers. Dans l'épisode, par exemple, ils s'attaquent à un bébé que la tante de Sabrina protège et s'amusent à le cacher dans le four qui était en train de préchauffer les rois du prank. Et donc pour se débarrasser de ces esprits, les tantes Spellman finissent par appeler à la rescousse une sorcière du nom de Jira. Dans la série, on raconte qu'elle a passé 1000 ans à essayer de remplacer ses enfants qu'elle avait dû manger pendant une période de famine. C'est joyeux. Et ce personnage, en fait, est inspiré
Mais qui lui jettera la pierre ?
Ben c'est vrai, on n'a jamais été confrontés, on ne sait pas. Hein,
non.
On sait pas. Et d'ailleurs, ce mythe est inspiré d'une géante ou une troll, on ne sait pas trop selon les légendes, islandaise, qui s'appelle Grilla, et qui avait un appétit insatiable pour les jeunes enfants et les enlever afin de les manger. Le mythe a ensuite évolué pour en faire la maman des Yule Lads, qui elle aussi descendait de sa montagne aux alentours de Noël pour dénicher les enfants passage et les dévorer. Et enfin, il reste un personnage mythique de Yule qui apparaît dans ce Christmas special, et c'est bien sûr Krampus, l'alter ego maléfique de Saint-Nicolas. Krampus qu'on en a vu dans de nombreux films d'horreur ces dernières années, c'est devenu un espèce de petit personnage horrifico-comique et très apprécié dans la pop culture. Dans la série Sabrina, il apparaît sous la forme d'un voisin, le gentil monsieur Bartel, qui se déguise chaque année en Père Noël, parce qu'il est gentil et qu'il aime beaucoup les enfants. Sauf qu'il en profite à chaque fois pour kidnapper l'enfant le plus mignon de la ville et le transformer en poupée pour ajouter à sa collection. Alors que Krampus, lui, tranquille, se contentait de les battre ou de les brûler, les enfants. Normal, quoi. Ah, douce période des fêtes de fin d'année. Donc finalement, Yule, pour moi, c'est un sabbat à deux visages et il n'est pas si éloigné de nos traditions modernes. Nous, on est là autour de la table, on partage des grands repas, on s'offre des cadeaux et puis après, on s'engueule avec nos tontons et nos tatas racistes ou anti-vax. Ah, c'est merveilleux. Et c'est sur ces belles images qui respirent l'esprit de Noël comme un bon film de l'après-midi que je vous souhaite à tous et à toutes.
Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année.
Joyeux Noël à vous, Hélène. Merci. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je suis très frappé avec cette chronique. C'est parmi toutes les fêtes que vous avez pu évoquer, parce que finalement, souvent vous prenez un calendrier hein, quand vous venez nous voir. Il y a vraiment cette fête. C'est vraiment la dualité, la dichotomie, parce que vous nous avez parlé à la fois d'intangible, de monde des morts, de quelque chose de spectral, et en même temps, il a été question vraiment de bonne chair, de chair.
On est vraiment sur les deux. C'est ce qui nous unit, oui. Aussi bien l'invisible que le, comme vous dites, le tangible et le partage au moment de ces fêtes-là.
D'accord, c'est vraiment. Et alors, Yule est fêté encore.
Hier, il a été fêté, je pense, dans pas mal de pays nordiques, je crois, même un peu en Allemagne. Il reste des traditions de Yule, des repas. Il me semble que même dans certains pays anglo-saxons, on fait la veillée, en fait, le Yuletide, où on fait un repas comme un repas de Noël, en fait, à ce moment-là. Et donc, on prépare une belle bûche de bois qu'on a sélectionnée à l'avance. On la décore, on y insère parfois des petits souhaits que l'on met sur un morceau de papier et on les fait brûler dans la cheminée ce soir-là, cette nuit-là, pour qu'ils atteignent plus rapidement, justement, le monde des esprits et qu'ils soient réalisés au printemps suivant.
Et on regarde aussi, on profite des vacances pour regarder la série Sabrina,
Netflix,
combien de saisons déjà dispo?
Alors, il me semble que ça a été fait en 4 parties, et il me semble que c'est terminé maintenant.
Ouais. Mais le personnage de Sabrina n'est pas amené à apparaître dans Riverdale?
C'est ça. Cette adaptation, enfin, le personnage de Sabrina vient de l'univers de Riverdale, à l'époque des comics. Hein. Après, nous, on l'a connu dans les années 90 dans la série télé qui passait le matin dans Donkey Kong TV. Big up, mes amis des années 90. Et là, dans cette série, c'est un peu plus dark. Forcément, c'est un peu plus horrifique et fantastique.
Merci, Hélène.
Je vous en prie.
Vous avez quelques cloches à nous mettre, Benoît?
Des cloches?
Ouais. Eh ben, laissez tomber. Nous mettez pas.
On va faire les cloches. On sera les seules cloches de ce studio. Allez, voilà.
C'est parfait. Ah, des cloches. Des cloches pour vous annoncer le morceau suivant. On a fait une conférence de rédaction hier et j'ai découvert que nous aimions le même morceau, mais qu'on l'aimait d'amour.
Complètement.
C'est un morceau qui a vraiment sanctifié le fait de se draguer en mangeant une fondue et en se regardant à travers un verre de vin blanc, avec des mèches pompadour sur la tête. on raconte que lors du clip de Wham, parce qu'on va écouter Wham, la coiffeuse, à la fin, la chef coiffeuse s'est suicidée comme Vatel, parce qu'elle aurait loupé le blond qu'elle voulait faire à George Michael. Bon, ça reste quand même des moments de brushing complètement dingues. Et je vous propose d'écouter évidemment ce standard, il n'y a pas d'autre mot,
l'incontournable, l'inculte,
voilà, c'est Last Christmas par les Wham.
Seven. écouté l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Balistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Balistique Café du mercredi une fois par mois et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine.